3. Il est là, notre petit maître à penser. En grande forme, bonjour Vilnius.
Bonjour.
Alors c'est vrai que nous vivons tous dans nos quotidiens des expériences mauvaises, traumatiques, parfois même très agréable, c'est très bien. Et on se retrouve toujours avec ce besoin irrépressible d'en parler autour de nous, de partager l'expérience. C'est ce qu'on appelle le partage social des émotions. Et vous vous intéressez à ceci ce matin?
D'ailleurs, j'allais vous demander si vous connaissiez le point commun entre la naissance d'un enfant, le décès d'un proche, la visite d'une morgue, la dissection d'un cadavre ou la troisième place de la Belgique à la Coupe du Monde.
Attendez, comme ça, je ne sais pas vous dire.
C'est évidemment, ce sont tous des événements,
des événements
qui sont créateurs d'émotions.
Bien sûr.
Pardon, d'émotions fortes, mais aussi d'émotions partagées. Parce que nous oublions parfois que nous sommes des animaux sociaux et que les émotions sont au cœur de notre fonctionnement. Et pas seulement au niveau individuel, j'ai peur parce que quelque chose me menace. Les émotions sont des choses qui sont entre les personnes. Mmh. Depuis tout petit, les émotions que nous vivons dans les interactions avec nos parents ou avec les personnes importantes vont influencer et modeler nos apprentissages. Bernard Rimet, qui est un chercheur de renommée mondiale dans le domaine.
Il a écrit un livre, je pense, le partage social des émotions, justement.
Exactement. Mmh. Montre comment ces émotions vont continuer à s'inscrire dans un contexte relationnel toute notre vie. Et c'est très étonnant, il a montré aussi que lorsque l'un d'entre nous, nous vivons une émotion forte, dans presque 100% des cas, de 80 à 100% des cas, nous allons la partager aux personnes autour de nous. Et plus l'émotion est intense, plus nous allons la partager. Dans une des études phares du domaine, il y avait 33 jeunes étudiants qui avait été visiter une morgue.
Oui.
Et puis on avait évalué, on avait vérifié à combien de personnes ils en avaient parlé, à combien de personnes leurs amis en avaient parlé, et à combien de personnes les amis des amis en avaient parlé. Et en moins de 10 jours, plus de 900 personnes étaient au courant de cet événement. Et donc c'est vraiment comme une forme de contagion sociale. Lorsque nous vivons un événement qui est marquant, nous allons le partager, les gens vont le partager, et ainsi de suite. C'est aussi déjà une première indication qui nous dit que lorsque nous vivons quelque chose de fort, c'est souvent ça les secrets des événements émotionnels forts, que nous le partageons à quelqu'un en disant « surtout n'en parle pas », nous pouvons être sûrs.
Qu'il en parlera.
Mais oui, que la première chose que la personne peut faire, parce que c'est inscrit en nous, c'est qu'elle va en parler à quelqu'un qui va dire « surtout n'en parle pas ». Et si l'événement est très fort, cette personne va le parler à quelqu'un d'autre qui dira « surtout n'en parle pas ». Et très rapidement, tout le monde sera au courant de cette chose dont personne ne devait parler, en faisant semblant que personne ne le sait, bien évidemment.
En quoi c'est si important de ce partage des émotions? C'est libératoire? Ça crée le lien? C'est quoi, au fond, la démarche?
Alors, l'image très commune que l'on a, c'est que ça serait libératoire. Un peu comme si nous étions tous et toutes des cocottes minutes, des casseroles à pression, et donc les émotions seraient en train de bouillonner, et puis il faudrait absolument lâcher la pression et donc nous exprimer pour aller mieux. Alors jusqu'à aujourd'hui, les études, notamment celle de Bernard Rimet, ne vont pas valider cette hypothèse-là. Elles montrent que le partage social des émotions a plutôt une fonction sociale, et que lorsque nous partageons nos émotions, ça a pour fonction de maintenir, de rafraîchir et de renforcer nos relations, les liens. C'est vraiment quelque chose qui est au niveau des liens. À titre d'exemple, il le donne souvent, c'est je vis une émotion forte que j'ai besoin de partager, je la partage à une personne B, vous par exemple, vous éprouvez de l'intérêt, je vais exprimer davantage parce que vous m'écoutez, vous allez éprouver vous-même des émotions, ça va construire un sentiment entre nous d'unité, d'empathie, de similitude, et donc je vais recevoir de l'empathie, vous allez en donner, et qu'est-ce que ça va donner? Vous allez, suite à l'épisode, davantage m'apprécier, et moi aussi, je vais davantage vous apprécier.
Donc si je vous suis bien, lorsque je partage une émotion que j'ai vécue en journée, par exemple, c'est pas tant pour me libérer que pour tisser le lien, finalement.
C'est exactement.
Mais en même temps, c'est très libératoire, le fait d'en parler. On dit souvent, après un choc, parlez-en autour de vous. Il y a d'ailleurs toujours des équipes de psychologues, lors de traumas, d'attentats, etc. Parce qu'il faut parler, il faut que ça sorte aussi. Donc c'est finalement un all-in-one, c'est doublement intéressant.
Oui, et en même temps, ça a été un peu remis en question, là. Pourquoi ça nous fait du bien? Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que le fait d'en parler, comme vous le dites, ce que ça fait, ça nous fait du bien parce qu'il y a une forme de travail que l'on va faire, ça va nous permettre de revoir les choses autrement. Et donc, il y a comme un travail de prise de perspective qui se fait lorsque nous partageons nos émotions, ce qu'on appelle un travail cognitif, et en même temps, c'est par les liens sociaux, surtout, que ça nous fait du bien. Les études ont montré, par exemple, que lorsqu'on compare le fait de partager des émotions, vraiment, je rencontre quelqu'un et je partage vraiment ce qu'il y a d'émotionnel en moi, comparé au fait de parler des faits, un partage beaucoup moins émotionnel, c'est vraiment le fait de partager des émotions qui amène les personnes à être appréciées, beaucoup plus que partager des faits. Et donc c'est là que réside la chose importante.
Et la difficulté, on pense là aux personnes seules, la solitude, on ne parle pas, et donc là, effectivement, il y a n'y a plus ce lien qui permet le partage.
Exactement, dans les énormes problèmes de solitude que nous vivons, ouais. Et puis la difficulté que beaucoup d'entre nous ont à simplement identifier et exprimer des sentiments. Nous sommes souvent des analphabètes émotionnels, nous n'avons pas appris à identifier, à exprimer ce que nous ressentons. Il est beaucoup plus facile de juger ou de parler de faits. Alors, évidemment, on peut amener ça à un niveau beaucoup plus large, à un niveau de communauté. Mmh. Et Bernard Rimet a montré lui aussi que lorsque nous vivons une émotion, souvent, par exemple, un accident, c'est comme tout notre monde qui est déstabilisé. Mmh. Et partager les émotions, c'est se réintégrer à une communauté d'appartenance.
C'est ça.
Et donc, on peut penser ici à des grands événements qui vont nourrir la mémoire collective de nos sociétés. Mmh. Par exemple, les grandes manifestations pour les réfugiés. Ou ce qui se passe pour le climat en ce moment.
Ah oui.
Lorsque
très bel
ces
exemple.
Jeunes déferlent dans nos rues, lorsque nous allons dans les rues, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de construire un nouveau récit social. Et je terminerai avec cette citation de Don Elder Camara. Mm-hmm. Un rêve que l'on rêve seul est seulement un rêve. Un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité. Alors faisons attention à ce à quoi nous rêvons et nourrissons des rêves positifs pour la société et pour la nature, pour chacun.